Le mercredi 16 novembre, les hommes de Mérédis, en embuscade autour d'un point d'eau, réussirent à éliminer une vingtaine d'oiseaux. Les conditions étaient excellentes pour les hommes. Les oiseaux étaient tellement assoiffés qu'ils adoptaient un comportement suicidaire. Les émeus sentaient le danger, devinaient la présence du monstre tapi quelque part autour du réservoir. Le moindre bruit les faisait sursauter. Le simple flop d'une grenouille qui plongeait à l'approche d'un éclaireur suffisait à semer la panique et à les faire fuir. Mais quelques instants plus tard, ils reprenaient leur marche frénétique vers l'eau. Ce jour-là, Aloysius, en achevant les blessés, remarqua que l'un des émeus n'avait pas la moindre trace de blessure, et en conclut qu'il avait dû succomber à une crise cardiaque. L'eau, source de vie, était devenue, par la grâce du diable, source de mort. Aloysius releva la tête et regarda le ciel. Il était vide, un vide absolu. Seul le diable existait. Il serait peut-être enfin temps que l'humanité devienne adulte, que nous prenions conscience que nous sommes seuls, que nous avons toujours été seuls, et que nul Dieu jamais ne viendra réparer les blessures faites à la terre par les hommes. Si nous détruisons la planète, ce sera la fin de l'humanité. Jim regardait Aloysius qui semblait perdu dans ses pensées. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air songeur ?» demanda Jim. « Non, non, ça va, » répondit Aloysius en tapant sur l'épaule de Jim. « Je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Cette fois, ils sont bel et bien tous morts. » Dans l'après-midi, les hommes de Mérédis s'installèrent autour du réservoir de Legbron, où d'importants mouvements d'émeus avaient été signalés. Ils semblaient venir de l'est, ce qui donnait à penser au major qu'il pouvait s'agir des émeus qui s'étaient introduits par les portes de la grande barrière restées ouvertes. Cette éventualité réjouissait le major, car s'il avait vu juste, ces volatiles n'ayant encore jamais été mitraillés, ils ne devraient pas se montrer trop craintifs. C'était d'ailleurs la raison qui avait poussé le major à indiquer au caméraman de la Fox Movieton News le lieu où il serait. Jim O'Halloran, assis sur la berge, regardait le reflet de la caméra dans l'eau. Il accepta un verre de thé qu'un fermier lui proposa. Cela faisait bien une heure qu'ils étaient là, et toujours pas le moindre émeu en vue. Joe Perry ne portait pas de couvre-chef. D'ailleurs, il n'en portait jamais. Jim trouvait bizarre qu'il n'attrape pas d'insolation. Le major s'approcha de Jim pour lui emprunter ses jumelles. Il scruta l'horizon. « On en voit, mais ils sont vraiment très loin, et ils n'ont pas l'air de vouloir se rapprocher. »« C'est les mêmes que tout à l'heure, major, » répondit Jim. Un groupe d'une quarantaine, très éparpillé. Ils ne bougent pas. » Pour tuer le temps, Jim s'amusait à lancer des petits cailloux sur une grenouille dès qu'elle réapparaissait à la surface. Mais bien vite, elle disparut. Le bruit d'un moteur attira son attention. Pourtant, les alentours étaient déserts. C'est alors qu'il comprit que le bruit venait du ciel et aperçut un petit biplan. L'avion piqua sur les émeus et essaya de les encercler. « C'est quoi, zèbre ?» s'exclama Jim. « Ça l'amuse de les effrayer? Il voit pas qu'on bosse ?» Le major s'était rapproché et souriait. « Je vous parie qu'on va avoir droit à un looping !» ajouta Jim. « Taisez-vous et regardez !» le coupa le major. « C'est mon vieux pote, Capitaine Snook. C'est un ancien de la Royal Air Force. » À l'énoncé de la Royal Air Force, Jim changea immédiatement d'attitude et fut pris d'un vif intérêt pour les manœuvres qu'effectuait le pilote. « Il est équipé d'une mitrailleuse ?» interrogea Jim. « Mais non, c'est un Gypsy Moss, un 2 Havilland. Il appartient à la compagnie Air Taxi Limited. Il transporte des passagers au taux de 1 shilling par mile et 6 pence seulement par passager supplémentaire. Et ça marche bien. C'est plus économique que de louer une voiture. C'est plus direct que par la route. Ils font aussi de la photographie aérienne. Vous ne devinerez jamais comment je l'ai connu. Dites, Major, je vous écoute. C'était peu avant son mariage. 1911-1912, dans ces eaux-là. Je m'étais amouraché d'une belle Espagnole qui avait du sang gallois. Une vraie beauté. Tous les hommes en étaient fous. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était déjà plus ou moins fiancée. Le major s'arrêta là. « Alors, major, et la suite ?» s'exclama Jim. « La suite ? Eh bien, c'est Charles William Snook qui a épousé Clarisse de Léon. »« Allons, racontez-moi un peu plus, major. Je vois bien que vous ne me dites pas tout. » D'un hochement de tête accompagné d'un revers de la main, le major balaya la question, et Jim comprit qu'il n'en saurait pas plus. Il connaissait bien le major et savait pertinemment qu'il ne fallait pas insister. « Regardez donc ce qui se passe et tenez-vous prêts. Il va les rabattre sur nous. Retournez à votre mitrailleuse. »« Bien, major. » Jim comprit que le major avait surtout voulu clore la conversation, car les émeus, loin de se regrouper, semblaient encore plus éparpillés que tout à l'heure. Jim retourna voir le major. « Ça ne marche pas. Ils ne sont pas aussi dociles que des vaches. Ils ne se laissent pas faire. D'instinct, ils s'éparpillent. »« Il faudrait peut-être plusieurs avions, » ajouta le major. Peu après, le Gypsy Moss atterrit. Le fringant capitaine Snook en descendit, accompagné d'une très belle femme. Jim ne put s'empêcher de siffler. « Waouh ! Quelle beauté ! Mais elle n'a pas vraiment l'air espagnole !»« C'est sa deuxième femme, » répondit le major. « Et un conseil, évitez de trop la regarder !» Jim éclata de rire. « Ça va être difficile, à moins de me crever les yeux !» Le capitaine Snook portait une moustache identique à celle immortalisée par Charlie Chaplin. Contrairement à la plupart des pilotes, il ne portait ni combinaison ni lunettes protectrices, mais le costume du parfait homme d'affaires, auquel venait s'ajouter un hombour de feutre noir. Après les présentations d'usage, Hilda, la femme du capitaine, les quitta pour aller soigner le fermier qui s'était tiré une balle dans le pied. La blessure ne se refermait pas et on craignait la gangrène. Jim n'en revenait pas qu'une femme aussi belle puisse également être médecin. Les hommes retournèrent bientôt à la propriété de Joseph Joyce, où le capitaine Snook attendrait le retour de sa femme. Quelques bières aidant, les langues se délièrent et Jim apprit pas mal de choses. Le capitaine Snook était né en 1891. Il avait commencé sa carrière en faisant de l'épandage aérien de pesticides, ainsi que du largage d'appâts empoisonnés contre les dingos. Il avait aussi travaillé pour l'aéropostale avant de devenir instructeur de vol. Abattu en 1916 au-dessus de l'Allemagne par un redoutable monoplan Fokker, le premier avion de série au monde à être équipé d'une mitrailleuse capable de tirer à travers les pales de l'hélice, il sera fait prisonnier avant d'être échangé l'année suivante contre un officier allemand. Jim apprit aussi que les affaires de la compagnie n'étaient pas aussi florissantes que le major le croyait. Bien que chargé d'importants travaux cartographiques, les coûts d'exploitation dépassaient en fait les revenus. Mais, par-dessus tout, le capitaine Snook ne s'était toujours pas remis de la mort de son associé, Charles Nesbitt, qui s'était écrasé dans les Derlinghange avec deux élèves pilotes. La menace d'une liquidation judiciaire planait et justifiait certainement à elle seule l'acharnement que mettait le capitaine Snook à défendre son projet d'encerclement des émeux pour les rabattre ensuite vers les hommes de Mérédis. Le major, que la démonstration de l'après-midi n'avait pas vraiment convaincu, conseilla toutefois à son ami d'adresser directement sa demande au brigadier A.M. Martin qui commandait la 5e région militaire basée à Perth. Le clou de la soirée fut sans conteste pour Jim le moment où, après une énième bière, Captain Snook lança au major en riant « Tu te rappelles comment on s'est connus ?»« Pardi que je m'en rappelle, t'as failli me tuer !» Les yeux de Jim pétillaient. « Il m'a poursuivi jusqu'en haut d'un arbre avec un revolver parce que j'avais voulu lui chipper sa fiancée !» Un peu plus tard dans la soirée, quand Hilda fit son entrée, Jim fut une nouvelle fois subjugué et ne garda pas ses yeux dans ses poches. Il l'écoutait avec fascination raconter comment elle avait dû procéder à l'ablation du gros orteil avec les moyens du bord. C'est fou le bien que ça peut faire à un homme de regarder une belle femme, se dit Jim. Pour rien au monde, il n'aurait voulu être ailleurs. Le 17 novembre, le major eut enfin son heure de gloire quand les hommes dénombrèrent plus de 50 émeutes tués autour d'un point d'eau. Depuis quelques jours, les agriculteurs avaient adopté une autre stratégie en vue de regagner la confiance des émeutes. Plus un seul coup de feu ne fut tiré à l'intérieur des parcelles. Par le silence des fusils, ils espéraient rendre optimale l'utilisation des mitrailleuses. Qui plus est, tirer les émeutes à l'intérieur des cultures s'avérait souvent lourd de conséquences, au vu des dégâts occasionnés dans leur fuite. Malgré ces mesures, les émeutes restaient extrêmement méfiants et refusaient d'approcher. Une fois de plus, leur curiosité les perdit. Le fameux drapeau rouge du major les fit venir. Un journal satirique de la côte Est publia une caricature inspirée de la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. On y voyait le major J.P.W. Meredith, torse nu, brandissant le drapeau de la victoire. Au premier plan, les cadavres des émeutes avaient remplacé ceux des soldats. Le caricaturiste avait malicieusement substitué au titre original un vers de la Marseillaise écrit en français « Le jour de gloire est arrivé ». En sous-titre, tracé en lettres de sang, un autre vers de ce chant guerrier, l'étendard sanglant est levé. Bien que ne faisant pas partie de la cavalerie légère, le dessinateur avait fait le choix de coiffer le major de leur célèbre chapeau orné d'un panache de plumes d'émeut. Pour répondre à la question d'un député qui avait demandé si une médaille allait être frappée pour cette guerre et qui allait la recevoir, l'auteur, un certain Marigan, avait épinglé sur la poitrine du major l'obi « The most excellent order of the British Empire ». Mais, sous la plume de l'artiste, l'obi était devenu « One Bloody Emu » et représentait un émeu sanglant. Ce même jour, au Parlement fédéral, à Canberra, à la Chambre des représentants, la séance fut relativement calme jusqu'à ce que le député travailliste de la circonscription de Delay, en Nouvelle-Galles du Sud, Sol Rosevert, prenne la parole. Josiah Francis, l'assistant du ministre de la Défense, reçut alors une véritable volée de bois vert. Mr. Rosevert le harcela de questions qui déclenchaient à leur énoncé de grands éclats de rire. Il voulut savoir quel était le nom du génie qui avait suggéré l'emploi de mitrailleuses contre les émeutes et autorisé l'envoi de personnel militaire. Était-ce ce même génie qui avait formé les hommes à cette guerre et décidé de la stratégie à adopter? Les émeutes étaient-ils de plus fins stratèges que nos militaires pour que quelques-uns seulement ne tombent dans leurs embuscades? Sol Rosevert pacifiste convaincu, demanda pour clore son intervention si, au vu de ces échecs à répétition si coûteux, la meilleure solution ne serait pas de proposer l'armistice aux émeutes et de retirer les troupes du front de l'Ouest. Josiah Francis dut attendre que le calme revienne pour recouvrer la parole. Ces questions sont suffisamment importantes pour qu'on y réfléchisse et ne doivent pas être traitées à la hâte. En conséquence de quoi, je demande qu'elles soient inscrites au feuilleton des avis. Je m'efforcerai d'y répondre ultérieurement. Les rires fusèrent à nouveau. Un député fit remarquer que Mr. Francis était un vétéran de la Grande Guerre et devait s'y connaître en tactique. Un autre député proposa que l'on adopte le marteau pour assurer le maintien de l'ordre, comme à la Chambre des représentants des États-Unis, en précisant toutefois qu'il serait plus judicieux de le choisir en ivoire et non en bois, comme celui du Sénat américain, et ce, afin d'éviter qu'il ne casse trop souvent. Vendredi 18 novembre 1932, jour mémorable entre tous, marqua le point d'orgue de la carrière de Sir George Pierce. Il reçut en effet ce jour-là l'appellation sous laquelle il allait entrer dans l'histoire. La séance au Sénat fut à l'image de celle qui s'était déroulée la veille à la Chambre des représentants. La question inscrite à l'ordre du jour concernait l'utilisation des mitrailleuses. Le sénateur James Guthrie demanda s'il n'était vraiment pas possible de tuer les émeutes par des méthodes plus humaines et moins spectaculaires. Le ministre de la Défense répondit que ceux qui n'avaient jamais vu d'émeutes ailleurs que dans les eaux ne pouvaient pas imaginer l'étendue des dommages infligés aux cultures. Ils sont capables de sauter des clôtures qui arrêtent les kangourous et les dingos. Ils renversent des clôtures qui tenaient les lapins éloignés des champs de blé. Rien ne résiste à une horde d'émeutes assoiffées. Et si, par miracle, une clôture tient bon, les lapins s'infiltrent par les brèches. C'est pourquoi il est indispensable d'éradiquer cette vermine. Et il n'est pas plus cruel de les tuer avec des mitrailleuses qu'avec des fusils. D'autant plus que tout oiseau blessé est immédiatement achevé par nos hommes dès que les tirs cessent. La journée ne fut pas, tant s'en faut, réservée aux émeutes. Les accords d'Ottawa absorbèrent presque tous les débats. Le sénateur McLachlan, ministre en charge du développement et membre de l'United Australia Party, dans un long discours, se félicita des résultats de la conférence d'Ottawa. Il voyait dans l'adoption d'une politique protectionniste le moyen de sortir de la crise de 1929. Cette politique dite de préférence impériale consistait essentiellement en l'abaissement des barrières douanières entre les différents membres de l'Empire. « Croyez-vous sérieusement, le coupa un sénateur, qu'en mettant des droits de douane très élevés sur les vins de Bordeaux, les membres de la gentry anglaise vont y renoncer pour les vins australiens? Vous allez pénaliser les consommateurs, c'est tout. » « Eh bien, cher confrère, vous ferez l'économie de quelques bouteilles. » Les rires fusèrent à nouveau. Le sénateur James Dunn, membre du parti travailliste, succéda à celui de l'UAP. Il fit remarquer tout d'abord que le discours du sénateur McLachlan avait été particulièrement long et que de tels discours ne devraient pas être lus, sinon ils pourraient tout aussi bien être mis dans une enveloppe et envoyés par la poste au président pour être inclus dans le Hansard. Un autre sénateur du Parti travailliste fit remarquer que cela équivaudrait à faire de la politique par correspondance, mais que, tout bien pesé, l'idée était peut-être intéressante, car elle permettrait de gagner beaucoup de temps et d'éviter les rancœurs. Cependant, il n'y eut guère besoin d'attendre très longtemps pour constater qu'à son tour, le sénateur Dunn lisait des passages fort longs de journaux étrangers qui critiquaient violemment les accords d'Ottawa. Au bout d'un certain temps, le leader du gouvernement au Sénat, Sir George Pierce, intervint pour lui demander ce qu'il lisait. « Ce que je cite en ce moment est un document secret, » répondit James Dunn. « Je demande d'ailleurs que tout ce que je dis soit noté dans le Hansard, car quand j'aurai fini, je le remettrai soigneusement dans ma poche. » Cette réponse eut le don d'énerver Sir George Pierce, qui à partir de cet instant ne cessa de le harceler de questions. James Dunn, visiblement confus, finit par dire que l'article qu'il lisait provenait du Winnipeg Argus et était signé Mr. Brown. Comme l'article en question faisait mention des villes de Québec, Montréal ou encore Ottawa, le président estima tout à fait plausible l'appartenance du texte au Winnipeg Argus et autorisa le sénateur à poursuivre. Un observateur attentif aurait toutefois pu se douter que l'air malicieux du sénateur cachait quelque chose. Le sénateur Dunn narra, en un style proche de Dickens, le merveilleux voyage de Laurenghi qui mena ses chers délégués jusqu'à la ville d'Ottawa, ainsi que l'accueil en fanfare qui leur fut réservé. Cette description eut à nouveau le don d'exaspérer Sir George Pierce, qui menaça cette fois de quitter la séance si on ne lui donnait pas accès aux documents lus. « J'exige aussi d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux Mr. Brown, » ajouta le ministre de la Défense. Le sénateur Dunn ne se laissa pas impressionner par la menace de Pierce. « Je vous trouve bien curieux de vouloir toujours tout savoir. Quel fouineur vous faites !»« Et puisque je n'ai pas l'intention de vous céder, je vous invite à retourner à vos émeutes. » Les sénateurs travaillistes applaudirent à tout rompre. « C'est ça, qu'il retourne à ses émeutes !» lança le sénateur MacDonald. Le président dut patienter quelques instants avant de pouvoir s'exprimer. « Messieurs, un peu de calme, je vous prie, on se croirait sur un champ de foire. Comme je vois qu'il est presque midi, je propose de suspendre la séance jusqu'à 14 heures. Aucune objection ? Non, alors je vous souhaite à tous un bon appétit, comme disent les Français. » Après le déjeuner, le sénateur Dunn conclut son discours par une attaque virulente de cette politique protectionniste. Il rappela que l'Australie, maintenant dotée de nombreuses industries secondaires, n'en restait pas moins essentiellement agricole. Ce système de préférence impériale est surtout à l'avantage du Royaume-Uni et non des dominions. Il va permettre à ce grand pays industriel qu'est la Grande-Bretagne d'écouler sur notre sol les produits de leurs industries et tout particulièrement ceux de la métallurgie et du textile, ce qui aura pour conséquence d'empêcher le développement de nos propres industries et de donner du travail aux Australiens. J'ajouterai que je devine ce qui se cache derrière le grand projet du chancelier de l'échiquier, Neville Chamberlain. Il espère pousser la réorganisation économique de l'Empire jusqu'au point où l'unité économique permettra de regagner la perte de l'unité politique. Mais messieurs, est-il besoin de rappeler que depuis le statut de Westminster, rien ne nous oblige plus à être à la botte des Anglais ? « Je ne peux pas vous laisser dire cela, » le coupa Sir George Pierce. « Vous ne comprenez rien à la politique. »« Ah, oh, elle est bien bonne, celle-là, » répliqua le sénateur Dunn. « Mais je n'ai aucune leçon à recevoir d'un renégat politique. »« Messieurs, un peu de bienséance, s'il vous plaît, » intervint le président. « Sénateur Dunn, vous ne pouvez utiliser ici le mot renégat, car il est anti-parlementaire. »« Très bien, » répondit James Dunn. Alors je me référerai à lui comme le ministre de la guerre des émeutes. » Passé le temps des rires, les regards se tournèrent tous vers le ministre de la Défense. Sir George Pierce s'était levé. Il était blanc, tout de colère rentré. Chacun guettait les mots qui allaient sortir de sa bouche. Mais rien ne sortit. En grand militaire qu'il était, il connaissait son devoir de réserve et il se rassit. C'est ainsi que furent prononcés pour la première fois les quelques mots qui seraient à jamais accolés au nom de Sir George Pierce. Quelques minutes plus tard, le sénateur Bertie Johnston, à l'instar du sénateur Pierce, demanda à savoir qui était ce mystérieux Mr. Brown. « Excusez-moi de paraître insistant, ajouta-t-il, mais j'estime capital de pouvoir vérifier l'authenticité et la provenance des documents cités, faute de quoi nous nous exposons à de graves malentendus entre les dominions. » Le sénateur Dan réfléchit un instant, puis se leva. « Puisque vous le demandez si poliment, je vais vous répondre. Je n'ai rien à cacher. Les documents cités proviennent tous du Manchester Guardian, le seul journal qui n'a pas peur de dire la vérité. » Il avoua ensuite qu'il les avait déjà communiqués au greffe pour être transcrits dans le Hansard, puis conclut sur un dernier pied de nez qui ne fit rire que les travaillistes. « Je serais également très heureux de les faire encadrer et de les offrir à Sir George Pierce. » Peu après, le président clôtura la séance.